Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain,
produite par l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert et je reçois cette semaine Sylvie Latreille, qui est théologienne et professeure à l'Institut de pastoral, donc une de mes collègues. Sylvie nous parlera d'une expérience qu'elle a vécue en septembre 2010 dans le cadre d'un colloque à l'Institut de pastoral. C'était une expérience de dialogue interreligieux avec deux autres croyantes monothéistes, une croyante juive et une croyante musulmane, et elles avaient construit ensemble une liturgie interreligieuse pour la paix qui a d'ailleurs été diffusée à Radio-Canada dans le cadre de l'émission Le Jour du Seigneur. Nous venons de passer tout juste le 10e anniversaire de l'attentat des tours du World Trade Center. Donc, ce dialogue interreligieux me paraissait d'autant plus pertinent. Ça sera pour moi un plaisir de vous la présenter.
Sylvie Latreille, bonjour. Bienvenue à cette émission.
Merci, Francine.
J'annonçais, Sylvie, que vous alliez partager avec nous une belle expérience que vous avez vécue l'an dernier, donc de dialogue interreligieux. Je dis tout de suite, même si on en reparlera à la fin de l'émission, que cette expérience, elle a été réactivée pour vous, puisque Radio-Canada vous a demandé d'enregistrer toutes les trois femmes croyantes, donc une capsule, n'est-ce pas?
Tout à fait, qui a passé le 11 septembre dans le cadre de l'émission Le Jour du Seigneur.
D'accord, et c'est sur le 10e anniversaire, justement, des événements du World Trade Center.
Exactement.
Donc, on aura l'occasion d'y revenir, mais ça vous a permis donc de revoir ces deux femmes avec qui vous aviez vécu une belle expérience. Dans quel contexte, Sylvie, s'est produite cette expérience?
Alors, c'est dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral. Il y avait au programme un colloque sur le dialogue des cultures et des traditions monothéistes. Nous étions invités toutes les trois à présenter une communication dans le cadre de ce colloque et à partir de chacune de nos traditions religieuses. La question qui nous avait été demandée, c'était de voir comment chacune de nos traditions religieuses, c'est-à-dire en le judaïsme, le christianisme et l'islam, contribuent-elles au dialogue interreligieux et des cultures.
Oui, et spécifiquement au Québec.
Spécifiquement au Québec.
Alors, ces deux femmes, pourriez-vous nous les présenter, s'il vous plaît?
Qui sont-elles?
Oui.
Elles avaient été invitées par notre collègue Bruno Demers, qui avait été en charge de la préparation de ce colloque. Alors, la première, Sharon Gabé Elfer, c'est une éducatrice, c'est une chercheure et elle est auteure dans les domaines de la traduction, spécialiste en dialogue interreligieux et interculturel, aussi de l'histoire de l'oralité, les récits, la religion et les arts. Elle est docteure en études de judaïque, elle est diplômée de l'Université Concordia. Et elle s'investit ces dernières années de plus en plus dans le dialogue interreligieux entre autres, les Palestiniens
et les Israéliens.
Effectivement.
Ouais. Quel dossier.
Mon autre collègue, Samia Amor, elle est avocate, elle est doctorante à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle aussi, elle est chercheure, c'est assez spécial, en pluralisme juridique au Québec et en mode de résolution non judiciaire des conflits et en droit islamique et d'internormativité. Ce sont deux femmes très bien articulées et en plus très engagées dans le dialogue interreligieux.
Ah oui. En tout cas, je peux vous dire que ce sont deux femmes que j'ai, moi, trouvées très sympathiques, impressionnantes aussi, et toutes les trois, vous étiez impressionnantes. Nos auditeurs auront la chance, Sylvie, de les entendre à la fin de l'entrevue avec vous. J'ai fait un bref montage à partir de ce qu'elles expliquent elles-mêmes, Samia et Sharon, à propos de cette collaboration de vous trois pour préparer la cérémonie. Je signale aussi que la musique que nous allons entendre tout au long de l'émission, c'est de la musique qui a été interprétée pendant la cérémonie. Donc, vous étiez toutes les trois panélistes.
Exactement.
Ça n'a rien à voir avec la préparation d'une liturgie,
ça. Je suis tellement d'accord avec vous. Oui. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé, je dirais, un petit peu par accident. Comment se fait-il que nous nous sommes retrouvés toutes les trois à la préparation de cette célébration interreligieuse qui se voulait une célébration de la paix et événement de clôture de ce colloque? Cette célébration a eu lieu le 11 septembre 2010 Par ailleurs, elle avait été enregistrée pour le jour du Seigneur de la semaine suivante.
Oui, le 19 septembre.
L'intérêt, par ailleurs, c'est que ça s'est vécu vraiment le 11 septembre dans l'église conventuelle des Dominicains.
C'est très significatif puisque c'était une liturgie, une célébration sur la paix.
Exactement.
Pour la paix. Et sous le signe de la lumière.
Oui, la thématique était la lumière.
Comment se fait-il, Sylvie, donc, que ce soit vous trois qui ayez été responsables d'organiser cette célébration?
Nous sommes rencontrés une première fois au mois de juin 2010. Nous avions été convoqués par le comité organisateur du colloque et nous pensions que nous venions pour parler un peu de ce panel que nous étions supposés former dans le cadre du colloque. Très vite, cette rencontre de discussion sur le colloque a pris la forme d'une désignation pour la célébration de prière pour la paix. Ça a été vraiment une surprise. Il y a deux facteurs qui ont contribué à cela. Un des premiers facteurs, ça a été ce que j'appellerais, moi, l'épreuve du calendrier, des conflits d'horaire. Deux rendez-vous qui étaient là, dans le calendrier juif et dans le calendrier musulman, qui n'avaient pas été tenus en compte.
Qui n'avaient pas été prévus.
Exactement. Oui. Alors, il s'agissait, entre autres, dans le calendrier juif, la fête du Grand Sabbat.
Ah oui, tout juste avant le Yom Kippour.
Exactement.
Ah oui, j'imagine que c'est une période où les rabbins sont particulièrement occupés.
Vous avez tout à fait raison, très occupés.
Le Yom Kippour qui est le jour du grand pardon.
Le grand pardon, Mais c'était la fête de l'Aïd aussi, cette grande fête qui marque la fin du Ramadan.
Ah oui.
Alors là aussi, la disponibilité d'un imam n'était pas tellement possible.
En effet.
Devant cette situation... Le comité en est arrivé à dire, mais pourquoi c'est pas vous, les femmes, qui créez quelque chose de spécial?
Okay. Dans leur esprit, ça aurait été organisé en collaboration par un rabbin, un prêtre et un imam.
Ça aurait pu effectivement être le scénario de départ.
D'accord.
Mais compte tenu de ces circonstances, il a été vite évident qu'il a fallu trouver une autre solution. Et à ce moment-là, Sharon a vécu une situation aussi où elle a eu à prendre une décision, à savoir à quel titre pouvait-elle participer et créer cette célébration.
Oui.
Et la réflexion l'a amenée à se situer très clairement en disant « Je ne suis pas représentante de ma tradition religieuse et c'est à titre personnel que je peux m'engager dans ce processus et ce projet. »
D'accord. Pas représentante officielle, disons. Pouvait incarner sa propre tradition, être là au nom de sa propre foi, mais pas
déléguée par les autorités.
Et c'était votre cas aussi.
Et c'était mon cas, et c'était le cas aussi de Samia. Et cela nous a permis justement de dire d'accord, nous acceptons, et c'est à titre personnel et non comme représentante de nos trois traditions religieuses que nous avons accepté de préparer cette célébration interreligieuse pour la paix. Et cela nous a permis, effectivement, de prendre le leadership de cet événement. Et c'est notre collègue, Samia, qui spontanément a dit « OK, on s'en occupe.
On s'en occupe.
Nous allons régler ça entre femmes. »
Magnifique. Ça a été une chance, je pense, ce hasard des calendriers, puisque ça permet probablement plus de liberté au niveau des rituels et tout ça lorsqu'on n'est pas soi-même un professionnel du rite, je dirais. On n'a plus de liberté peut-être pour créer. En tout cas, ce que vous aviez fait était magnifique. Il est très possible que plusieurs de nos auditeurs l'aient vu à Radio-Canada l'année dernière au Jour du Seigneur. Donc, Sylvie, vous retrouvez à pied d'œuvre toutes les trois croyantes en dialogue et en exigence de créativité.
Je dirais, Francine, que la première condition qui a permis de pouvoir entrer dans ce dialogue, parce que ça a été vraiment une expérience dialogale, pour moi, ça a été d'abord de me mettre en relation avec le Dieu dans lequel je crois, comme chrétienne. Et notre complicité a fait en sorte que chacune a eu d'abord à se situer dans sa relation au Dieu unique. Les trois grandes traditions monothéistes croient,
oui,
en un seul Dieu.
Bien sûr.
En partant, nous avions un quelque chose, ou je dirais un quelqu'un en commun.
Absolument, une complicité de base.
Une complicité de base,
oui.
Et qui part aussi de la théologie. Nous avions en commun cette foi en Dieu, ce Dieu unique, et en même temps, nous partagions ensemble notre expérience comme femmes croyantes à partir de nos traditions différentes.
Oui.
Et le dialogue n'a pu être possible qu'à partir du moment où nous nous sommes situés personnellement dans notre tradition religieuse.
Chacune. OK, donc il ne s'agissait pas de quitter son propre territoire pour trouver le petit bout de territoire qui va être commun aux trois, mais chacune, les pieds bien enracinés dans sa propre tradition, vous avez trouvé un territoire commun.
Exactement. Mm. Ce territoire commun nous a permis d'éviter d'essayer de trouver le plus petit commun dénominateur. On a évité ce piège-là. Parce que, à ce moment-là, nous pouvions voir comment est-ce qu'à travers notre expérience aussi comme croyante, notre expérience aussi de relation à ce Dieu unique, et qu'est-ce que nous pouvions créer ensemble. Et ça, ça a été une base et je dirais un point dans notre rendez-vous qui a été extrêmement important.
Mm-hmm.
J'ai ma collègue Sharon qui disait être capable d'accueillir l'autre hein, dans l'intimité de sa spiritualité. En restant, je dirais, fidèle à sa propre tradition religieuse.
Cette expression que la spiritualité, c'est quelque chose d'intime.
Exactement.
Et si on se situe là, on peut être en communion avec l'autre plus facilement peut-être que dans les débats théologiques ou idéologiques, finalement.
Effectivement, oui. Parce qu'on se situe au niveau de l'expérience.
Oui, au cœur de l'expérience intérieure.
Voilà. Oui. Et de la conviction.
Je me demande, Sylvie, si des femmes ne sont pas plus aptes naturellement à ce genre
nous
de...
Nous avons eu la marge de manœuvre pour l'exprimer, parce que le comité a entériné tellement facilement toutes les propositions que nous avons faites. Parce que justement, il y avait une solidité qui s'est créée dans cette complicité ensemble
oui.
et qui fait que d'abord, nous nous sommes situés dans notre expérience, chacune à partir de notre propre tradition religieuse.
Sylvie Latreille, sur un plan pratique, vous avez commencé par quoi?
Alors, à ce moment-là, on a commencé par se retrouver à nouveau après les vacances. Ce furent des retrouvailles joyeuses. Samia et Sharon se connaissaient un peu, ayant fréquenté les mêmes colloques, mais moi, je ne les connaissais pas comme telles. Et là, on s'est mis à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on s'est permis d'abord de rêver. Et de voir comment est-ce qu'on pouvait imaginer une célébration semblable. Pendant un après-midi, nous avons travaillé ensemble et les choses se sont placées tellement harmonieusement et de manière tellement, je dirais, naturelle que nous-mêmes, nous étions un petit peu dépassés par la fécondité du travail que nous étions à faire. Très facilement, on a été capable de trouver une thématique.
La lumière,
parce que la lumière, nous l'avons en commun aussi, hein, dans les trois grandes
Bien
traditions.
Sûr.
Alors, on a pris la lumière. On a décidé aussi de choisir des textes sacrés à partir de chacune de nos traditions. Alors, la Torah, le Coran, l'Évangile, le choix des langues hein, de ces écrits sur des parchemins, alors soit l'hébreu hein, pour la Torah, le grec pour l'Évangile, l'arabe pour le Coran, le choix de la musique, le violon et la harpe, le visuel aussi, étant donné que c'était pour la télévision.
Ah oui, vous saviez déjà à ce moment-là que ce serait diffusé à Radio-Canada.
Effectivement.
D'accord.
Et déjà, dès les premières rencontres du mois de juin, nous avions avec nous des personnes de Radio-Canada.
Et le visuel dont vous parlez, ce sont les trois grands parchemins sur lesquels étaient écrits les trois textes sacrés que vous aviez retenus toutes
Effectivement.
Les trois.
Oui. Et vous savez, nos points de repère en liturgie, ce sont les nôtres, dans notre tradition comme catholique.
Oui.
Alors, il y a des choses qui, pour nous, semblent tellement normales. On ne posera pas de questions. Mais là, même si le travail s'est fait de manière harmonieuse, il demeure que nous avons eu à dialoguer entre nous et à expliquer pourquoi tel choix plutôt qu'un autre. La musique, dans les célébrations musulmanes, il n'y en a pas.
Ah bon?
Vous saisissez?
Ah, je ne savais pas. Non.
C'était une célébration sur la lumière et pourtant nous n'avons pas allumé de cierges.
C'est vrai, maintenant que vous le dites.
Je vous le dis parce que dans la tradition juive, avant la fin du sabbat, vous ne pouvez pas allumer de cierges.
Et c'était un samedi. Oui, ça donne une très bonne idée du genre d'ajustement constant que vous avez eu à faire toutes les trois. Ça n'a pas tiraillé, ça n'a pas été un problème.
Je dirais que ça a été un dépassement. Un dépassement d'une ouverture à l'autre pour essayer de comprendre l'autre, d'entrer dans l'intimité de la spiritualité dont on parlait tout à l'heure et d'avoir cette ouverture et dire « Explique-moi pourquoi on ne peut pas faire ça. »
Au lieu de cataloguer rapidement, bon, mais c'est un détail, là, tu pourrais faire une exception. Non, il n'y a pas de respect dans ce que je viens de dire, au fond. Il n'y aurait pas eu une attitude de respect.
Je pense qu'il aurait été difficile à ce moment-là de travailler ensemble parce que dans ce dialogue interreligieux, ça a été beaucoup de délicatesse et de souci de l'autre. L'autre qui est en altérité, cette grande différence qui fait en sorte que les symboles n'ont pas la même signification d'une tradition à une autre.
Et comment donc sauvegarder la spécificité de chacun tout en faisant bien fond, en ayant les pieds bien solides sur ce que vous aviez en commun?
Tout à fait.
Cette
effectivement,
foi pour en un Dieu unique.
Voilà, et essayer justement, comme je disais tout à l'heure, d'éviter un minimalisme pour essayer au contraire de dire qu'est-ce qu'il pourrait être fait.
Comment profiter des richesses.
Exactement. Et comme nous étions toutes les trois dégagées, comme nous n'étions pas des délégués, à ce moment-là, la célébration, elle a été très bien située en disant ce sont trois femmes croyantes.
Oui, et qui peuvent s'exprimer dans la liberté des enfants de Dieu.
Oui. Alors, cette préparation s'est vite transformée en expérience. Une expérience de dialogue de trois traditions religieuses différentes. Et cette expérience-là, elle s'est dépliée dans l'action. C'était dans l'action. Nous avons eu des choix à faire. Nous avons des conversations à tenir. Et combien de fois le langage semble si simple et là, nous devions nous arrêter et dire « Oui, mais qu'est-ce que ça évoque pour l'islam si nous disons cela? Qu'est-ce que ça évoque pour la tradition juive? » Et moi-même, j'avais toujours à dire « Oui, mais pour le christianisme, c'est pas tout à fait ça. » Nous avons essayé de ne pas, je dirais, appauvrir aucune de nos traditions religieuses.
Ça. Et donc, ne pas se considérer comme perdant parce qu'il faut être en commun avec d'autres, mais au contraire, chacun des trois profitant de la richesse des autres tout en gardant sa propre spécificité. C'est presque la quadrature du cercle, Sylvie. Ce que vous avez fait, vos collègues masculins, les responsables du colloque, puis tout ça, comment ils ont reçu cette espèce de préparation si libre et si riche en même temps?
Alors, nous avons convoqué justement nos collègues et les membres des autres comités et aussi représentants de Radio-Canada, et nous avons osé leur présenter ce que nous avions préparé. La réception a été unanime, et je dirais que l'ouverture a été vraiment tellement encourageante et stimulante que ça n'a pas pu faire autrement que de nous aider à poursuivre.
Bien.
Je peux dire qu'il y a eu non seulement un soutien, mais plus qu'un encouragement et une grande complicité et une joie. Une joie à dire oui, on est intéressé, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et surtout que cette cérémonie, elle était arrimée au colloque, hein, comme on disait tout à l'heure.
C'était la clôture du colloque.
C'était la clôture, et vous savez, comme moi, dans ce colloque-là, des sommités internationales qui se sont réunies durant 2 jours.
Oui, hein, le père Geoffrey. Rachid Benzine, les deux venaient de France.
Exactement.
Samy Aoun.
Jean-Claude Guilbeault, le journaliste français. Monsieur Pierre Tot, qui est décédé quelques jours après la fin du colloque. Aussi Monsieur Georges Leroux. Hein. Alors, ce sont des personnes qui avaient été...
qui étaient conférenciers.
Effectivement. Alors, on peut comprendre que cette cérémonie interreligieuse n'était pas détachée du colloque. Mm-hmm. Et de tout ce qui s'était passé dans le colloque concernant la part des grandes religions et aussi des cultures
Donc,
au dialogue.
Cette cérémonie devait refléter l'esprit du colloque en même temps.
Effectivement, ce n'était pas détaché.
D'accord. Alors, on parle de sommité, on s'imagine des grandes conférences, et puis tout à coup, Sylvie, je vous imagine toutes les trois magasiné sur la Plaza Saint-Hubert, on a l'impression de changer de monde, mais c'est comme ça que ça se réalise.
Et c'est comme ça que s'est réalisé le projet, et j'aime l'expression « le projet », hein, Francine. Très vite aussi, nous avons réalisé que c'était un projet que nous étions à faire ensemble, et que ce projet-là, c'est ce qui permettait justement d'entrer en dialogue toutes les trois pour le réaliser, ce projet.
Oui.
Et ça, je pense, c'est une condition qui est tellement importante quand on parle de dialogue interreligieux.
C'est Samia, je pense bien, qui le disait dans une des entrevues donc de l'émission qui a été diffusée à ce moment-là, au Jour du Seigneur. Samia disait pour que le dialogue interreligieux soit réel, on doit faire quelque chose ensemble. Hein? On doit
exactement.
Avoir un projet.
Avoir un projet.
Oui, travailler.
Travailler ensemble. Oui. Et c'est ce que nous avons fait. Et ce travail ensemble n'était pas juste d'élaborer et de créer une célébration, mais il a fallu, à un moment donné, mettre vraiment les mains à la pâte.
Oui,
et
mais là, la Plaza Saint-Hubert, franchement, les filles...
On a quitté cet espace, je dirais, plus conventionnel de nos universités pour habiter un espace urbain informel et le magasinage. Alors, pourquoi le magasinage? Pour faire justement ces panneaux sur lesquels étaient inscrits les textes sacrés, nous avions décidé de choisir nous-mêmes le matériel.
Un tissu qui était le même pour les trois.
Voilà, pour créer une unité de cette parole de Dieu. Et nous avions décidé que nous irions nous-mêmes choisir les choses. Ça a été une expérience, non pas le magasinage, mais le fait d'être les trois ensemble et le fait aussi que, durant toute cette journée-là, entre questions spirituelles, philosophiques, des questions matérielles, entre le fou rire et le sérieux, et même des fois à travers presque des larmes, ça a été justement de choisir ensemble ce que nous voulions, que ça soit beau pour la célébration. Et ça nous a amené à un certain dépassement au niveau du respect aussi. Trois femmes qui ont des valeurs différentes,
oui.
Qui ont quelque chose en commun, mais qui ont à produire quelque chose de concret
oui.
aussi.
Oui,
hein?
Le vrai test.
Le vrai concret, le
oui.
test, il est là.
Oui. Et puis, est-ce que Samia n'était pas en plein Ramadan à ce moment-là?
Effectivement. Alors, ça nous a amenés dans un respect mutuel. La très grande discrétion de Samia, qui vivait cette période du Ramadan durant toutes ses préparations, et elle le faisait avec beaucoup de discrétion, mais nous, ça nous a amenés à une solidarité et à un respect de ce qu'elle vivait comme musulmane, puis une grande complicité. Alors, on a décidé de l'accompagner, même en faisant, nous aussi, jeûne. Et, vous savez, sans nourriture, sans eau.
Cette journée-là avec elle.
Avec elle.
Oui.
Et ce n'est pas elle qui nous l'a demandé, mais on parlait d'ouverture tout à l'heure à la différence, à l'autre. C'est comme si, naturellement, nous avons consenti nous aussi, à vivre de cette manière-là durant la journée, sans dire un mot.
Puis, et ça pouvait tout à fait se reprendre pour chacune de vous, Sylvie et Sharon, dans sa propre religion, même si ça n'existe pas le Ramadan pour les chrétiens ni pour les juifs, mais une journée de jeûne et de solidarité avec quelqu'un qui jeûne, ça.
Exact.
Ça peut avoir du sens comme croyant.
Tout à fait. Puis regardez le carême et cette période de jeûne dans la tradition du christianisme. Alors, ce qui est intéressant, il y a cette sensibilité d'ouverture
oui.
à qu'est-ce que le jeûne. Mm-hmm. Et vous avez aussi, dans la tradition juive, le jeûne.
Bien sûr,
exactement.
Entre autres, au jour du Yom Kippour.
Voilà. C'est à ce moment-là qu'il y a oui. un jeûne qui est extrêmement important pour le grand pardon.
Donc, c'est de retrouver des complicités encore là sur des éléments plus profonds que la règle religieuse de tel ou tel, puisque jeûner, c'est se rappeler notre propre fragilité devant Dieu, qu'on soit chrétien ou musulman ou juif.
Ou juif, exactement. Et aussi d'être solidaire de toute cette misère humaine aussi, ou de tous ces peuples affamés.
C'est vrai.
Et qui fait en sorte que cette sensibilité... Alors, ce n'est pas une question, comme vous le soulignez si bien, une question de loi ou quoi que ce soit, c'est une question de relation. Notre amie collègue vit cela, elle le choisit. Samia ne porte pas le voile. Par ailleurs, elle est croyante et elle vit
comme les pratiques,
exactement,
bien sûr.
Qui mm-hmm. sont extrêmement significatives, tout comme nous, nous vivons aussi selon des pratiques. Moi, à partir de ma tradition chrétienne,
oui,
et Sharon avec la même chose au niveau du judaïsme. Mm-hmm. Alors, ça a été une expérience qui a dépassé le simple accompagnement.
Oui, je vois. Et tout en magasinant, donc, sur la Plaza Saint-Hubert, je le rappelle parce que je trouve qu'il y a là quelque chose qui pourrait être tout simplement et platement anecdotique, hein? Une corvée de magasinage, mais au fond, il y a une intensité qui est investie là, dans la complicité croyante et ça change tout finalement. Chaque petite situation peut avoir plein de
sens. Un sens différent. Ce n'est pas banal.
Non, en effet,
ce n'est pas banal.
Ça n'est pas... Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?
Ah, nous avons trouvé, oui. Nous avons trouvé effectivement ce dont nous avions besoin pour la confection de ces parchemins.
Oui.
Et là, ça a été un dialogue à six mains. Alors, Samia et Sharon ont la chance d'être couturières. Moi, j'avais...
Mais vous aviez la chance que Sharon et Samia soient couturières, c'est ça?
Oui, je suis d'accord avec vous. Et moi, bien écoutez, j'aime beaucoup repasser.
Ah oui? Alors... Qui aime faire du repassage? Sylvie Latreille.
Alors, ça a été vraiment une complémentarité.
Ben oui.
Alors, pendant que mes collègues, amis, cousaient, moi, je repassais. Ça montre bien la tâche. Hein? Je
oui.
parlais tout à l'heure un projet qui, si vous me permettez l'expression, qui est bien incarné.
Mm-hmm.
Alors, ça a été l'expérience d'un atelier artisanal, je dirais, à six mains.
C'est ça. À la fois que l'aspect manuel, l'aspect
oui.
de créativité, d'innovation... C'est une belle expérience, oui.
Effectivement.
Et le résultat était très beau.
Et c'est pour ça, Francine, que je prends le temps de pouvoir parler un peu de cette expérience de magasinage
oui,
qui peut sembler...
d'artisanat.
D'artisanat, parce que le résultat de voir sur des bannières montées jusqu'au plafond dans l'église conventuelle, de voir ces panneaux sous forme de parchemin, avec les trois textes sacrés de la tradition juive,
oui.
la Torah, de la tradition chrétienne,
oui, l'Évangile,
et en plus de la tradition musulmane, hein, le Coran,
oui.
et de voir ces paroles de notre Dieu, nous n'avons pu que faire silence et nous émerveiller devant la grandeur de Dieu. Beauté, émerveillement de trois grandes traditions religieuses et ce qui peut être possible de faire ensemble, tout en gardant chacune de nos
oui.
originalités.
Mais rassemblées par
rassemblées.
Ce même Dieu. D'ailleurs, là encore, je crois que c'est Samia qui disait dans l'entrevue qu'elle est persuadée que c'est à cette communion que Dieu invite tous les croyants.
Nous sommes les enfants de Dieu, oui. Comme croyante, regardez, cette expérience-là d'un dialogue interreligieux avec des collègues, amis de d'autres traditions religieuses, comme croyante, je me suis située beaucoup plus proche de leur connivence et de leur manière de croire que bien souvent proche que certaines, je dirais...
De votre propre,
de ma propre
tradition.
De ma propre tradition.
Oui. Donc, ça n'est pas que ça soit telle ou telle religion, mais c'est beaucoup notre propre façon d'entrer en relation avec Dieu. Et le hasard heureux a voulu que vous ayez été toutes les trois assez bien ajustées dans votre modalité ou dans votre spiritualité, dans votre intériorité, il y avait quelque chose là.
Qui a permis ce dialogue-là. Comme chrétienne, comme catholique, cette foi en Jésus-Christ m'a permis d'entrer en dialogue avec la différence.
Oui, mais c'est aussi votre manière à vous d'être en relation à Dieu qui rendait
exactement.
Ça possible. Je vous envie un peu, vous savez,
oui.
Sylvie. Oui,
je vous en reparle, Francine, puis ça fait un an. Et après un an, je suis mieux en mesure de voir comment cette expérience-là a eu un impact dans ma vie. Et comment est-ce que cette expérience, qui est arrivée comme à la suite d'un accident de parcours, comme j'expliquais tout à l'heure, a été vraiment d'une fécondité plus grande qu'on ne l'avait prévu.
Sylvie Latreille, lorsque Radio-Canada a produit cette émission, donc pour le jour du Seigneur, l'équipe de Radio-Canada a enregistré aussi des entrevues individuelles avec chacune de vous trois, que j'ai trouvé très intéressante. Qu'est-ce que vous retenez de plus frappant de ces entrevues-là avec Samia, avec Sharon?
Alors, les entrevues se déroulaient dans nos différents lieux de culte. Sharon dans une synagogue, Samia dans une mosquée, et moi-même, ça a été ici à l'église conventuelle des Dominicains. Je ne savais pas qu'est-ce qui serait présenté, je n'ai pas assisté aux entrevues qui ont été faites avec mes deux autres collègues. J'ai vu le résultat final lorsque j'ai regardé l'émission. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai découvert,
oui,
j'ai découvert quelque chose de tellement nouveau de ces deux femmes. Puis je vous dis ce qui m'a vraiment touchée. J'ai vu chez Sharon toute l'importance de la communauté. Elle nous disait comment est-ce que, dans le fond, dans le recueillement, il y a un geste de solitude. Hein? Dans le recueillement, quand elle est dans la synagogue, un lieu d'intimité, un geste de solitude, mais aussi elle nous disait comment est-ce que la prise en compte des autres autour d'elle, des personnes qui se connaissent, des personnes dont elle connaît les joies, les tristesses, ce que la vie nous apporte, hein?
Oui.
Une communauté qui était avec elle, dont elle fait partie, qu'elle a choisie, qu'elle trouvait tellement importante de donner en héritage à ses fils. Et dans cette communauté, hein, elle nous disait, s'il m'arrive quelque chose à moi, je sais qu'ils vont prendre soin de moi. Faire partie d'une communauté lui a donné, et elle le disait elle-même, une liberté immense de savoir qu'on n'est pas seul. Elle a insisté sur cet aspect communautaire dans son expérience de croyante.
Ça m'a frappé moi aussi lorsque j'ai regardé l'émission et je me suis dit, comme c'est biblique. La dimension communautaire de l'aventure croyante dans la Bible, elle est fondamentale.
Elle est fondamentale.
Absolument.
Communautaire.
Tout à fait. Et ça m'a beaucoup frappé de voir. Et Samia, qu'est-ce que vous...
Samia, elle a beaucoup parlé de la prière. Comment elle vit ce moment de rencontre intime avec Dieu et comment elle se sent, et je reprends ces mots, hein, en cohésion avec Dieu. Et elle nous disait avec, je dirais, tellement d'humilité. C'est ce qui m'a le plus touchée dans son attitude. Elle disait ceci, « Quand je pose le front sur le tapis, je me sens entre les mains de Dieu. Je me sens légère. » C'est une image, effectivement, qui venait pour moi déconstruire des clichés de cette attitude de prosternation, hein, ça peut chatouiller des fois les sensibilités contemporaines. Et là, cette croyante qui dit, avec beaucoup d'humilité à la caméra, « Je me sens légère, je me sens dans les mains de Dieu. »
Et comment ça lui permettait d'arrêter le rythme trépidant de la vie, ces cinq moments de prière.
Ces cinq moments par jour, hein. Elle disait, comme un rendez-vous pour m'arrêter, reprendre un peu mon souffle, de me détacher du mouvement qui happe littéralement nos manières de vivre. Et elle disait, c'est amusant, je mets comme mon cerveau au repos.
Ah oui, c'est bien.
Ça fait voir cette attitude tellement différemment.
En effet, je suis sûre que et Sharon aurait pu parler sur son expérience de connexion à Dieu et Samia aurait pu parler sur l'importance du communautaire pour elle, mais on voyait que ce qui émerge en premier, c'est différent selon l'une et l'autre.
Effectivement.
Et vous, Sylvie, vous nous avez parlé de la prière, de votre expérience de prière avec cette belle expression l'écriture qui est le chemin de l'âme. Et j'ai donc appris que vous écriviez.
Oui, et la question qui m'était posée, c'est comment est-ce que, justement, se vit cette expérience de la prière et c'est très facilement que j'ai pu identifier et dire, bien, cette expérience de rencontre, cette expérience intime de rencontre avec Dieu, c'est vraiment par l'écriture. L'écriture qui, pour moi, est le chemin de l'âme. La main qui pense, la main qui prie, et comment prendre le temps, justement, d'accueillir la parole et de pouvoir réagir à cette parole par l'écriture.
Ça passe par l'intérieur et par la main.
Par l'intérieur et par la main, effectivement.
Mon Dieu, que vous avez dû avoir de beaux échanges, toutes les trois.
À la suite, oui, ça peut donner une petite idée, hein, justement, comment est-ce que ce dialogue que nous avons initié ensemble a touché tellement de dimensions.
Mm-hmm. Sylvie Latreille, bon, le moment lui-même de la liturgie, donc... cet après-midi du 11 septembre 2010 est arrivé. Vous étiez prêtes toutes les trois. Vous étiez en train de concrétiser ce que Samia nous a rappelé être un rêve de Martin Luther King, assister à une prière interreligieuse des trois grandes religions monothéistes. Donc, vous arrivez à ce samedi après-midi du 11 septembre. Et comment ça se passe?
Ce qui a probablement permis d'aller jusqu'au bout, c'est, je dirais, l'expérience du matin. Nous avions à présenter chacune de nos communications dans le cadre du colloque. Et déjà, à ce moment-là, en présentant chacune de nos communications, nous avons probablement découvert chez l'une et chez l'autre, je dirais, des éléments qui nous avaient échappé à date, étant donné que nous n'avions pas travaillé ces questions-là ensemble. Mais là, nous nous sommes mises vraiment à l'écoute de l'une et de l'autre et de voir là maintenant, cette fois-là, l'académique, hein, l'intellectuel aussi, recevoir ce que l'une et l'autre avaient à partager. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, ça a donné une assise pour se faire confiance en après-midi. C'est pour ça que je fais un pont entre les deux. Oui. Parce qu'à quelques minutes avant l'entrée en onde, toutes les trois, la question qui a monté et on se l'est partagé, c'est dire « qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? » Nous étions en train de mesurer, chacune à notre, selon notre personnalité, la portée du geste du dialogue. Ce renouvellement de notre adhésion à Dieu à partir de chacune de nos trois traditions, et ce, dans un climat social défavorable à la croyance. Il y a quelque chose de provocateur dans ce sens-là, hein? de contre-courant.
Et peut-être, vous me direz si c'est le cas, la prise de conscience tout à coup que, bon, moi, je suis chrétienne, là, puis je m'en vais...
C'est une responsabilité.
Oui, qu'est-ce que je suis en train de dire à mes co-religionnaires? Et j'imagine pour Sharon juive, pour Samia musulmane, même problème.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Même si nous étions là à titre personnel et non comme délégués.
Oui, et, mais dans l'assemblée, il y avait des croyants
juifs, musulmans, chrétiens. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est la prise du vertige, hein?
Oui, je comprends.
Il y a un vertige face à cela. Et il était trop tard.
Oui, bien sûr, on ne recule plus.
Et c'était une célébration pour la paix en ce 11 septembre 2010.
Mm-hmm.
Et cette célébration-là, nous ne l'avons pas préparée pour nous. Ce n'était pas un spectacle que nous donnions. Il y avait là la présence d'une communauté qui était rassemblée.
Oui, et d'une communauté mixte, rappelons-le, c'est-à-dire avec chrétiens, juifs et musulmans.
Effectivement, une communauté que nous avions voulu participante.
Oui.
Il y a eu un rôle à jouer dans cette célébration-là.
Ça n'était vraiment pas un spectacle, vous
avez raison.
Ce
n'est pas un spectacle. Et en même temps, quelle exposition, hein? On s'expose. Je m'expose comme chrétienne, je m'expose comme juive, je m'expose comme musulmane.
Et en effet,
et ensemble.
Et vous vous exposez chacune, toutes les trois, je peux en témoigner de l'extérieur, vous exposez aussi votre complicité avec les deux autres. C'est-à-dire que c'est Sylvie la chrétienne, mais c'est Sylvie extrêmement à l'aise avec la juive et la musulmane. Et c'est Samia très à l'aise avec la juive et la chrétienne. C'est assez compromettant, vous avez raison.
Oui, c'est compromettant. Ouais. Et d'ailleurs, parce que c'est compromettant, parce que ça engage un quelque chose de nouveau, de neuf, d'initier une créativité, comme je disais tout à l'heure, et que c'est important, bien c'est sûr que ça va susciter toutes sortes de réactions.
En effet.
Et c'est certain qu'il y a des réactions qui ne seront pas positives.
C'est possible. Je ne sais pas si elles se sont rendues jusqu'à vous, ces réactions.
Elles se sont rendues jusqu'à nous, effectivement.
Ah ouais?
Et nous avons eu à entendre à la fois les commentaires qui ont été très élogieux, très positifs, mais aussi les critiques.
Oui.
Voyez-vous, la question qu'on s'est posée, à dire « qu'est-ce que je suis en train de faire? » Nous avons eu, je dirais, cette lucidité avant même d'entrer en célébration.
Ouais.
Peut-être c'est ce qui nous a permis aussi de recevoir et d'accueillir ce que cela a provoqué.
Il y a probablement toujours des gens dans chacune des trois grandes religions qui ont l'impression que être en complicité avec d'autres traditions, c'est risquer de perdre quelque
perdre
chose de sa propre tradition.
De sa propre... Exactement.
Est-ce que vous me dites, ou si je résumais ça autrement, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants dans votre expérience?
Sharon l'exprimait en ces termes, et j'avoue que je contresigne cela.
Oui.
On n'abandonne pas quoi que ce soit.
Non.
Dans le dialogue interreligieux.
Et pourtant, c'est cette même Sharon qui disait en entrevue, dans l'émission encore, on sentait qu'elle avait conscience de faire quelque chose de... peut-être pas révolutionnaire, je me souviens pas le mot qu'elle a utilisé.
Avec hésitation, oui. Elle disait, j'ai l'impression que je peux peut-être changer quelque chose.
Oui, hein, contribuer à transformer.
Contribuer à un changement
c'était
quelconque.
C'était sans prétention, mais on sentait que... Et elle parlait là de sa propre tradition.
Elle parlait de sa propre tradition, effectivement.
Elle amenait quelque chose de nouveau aussi, précieux.
Dans l'ouverture à l'autre, dans le dialogue interreligieux. Hmm. On n'abandonne pas quoi que ce soit. Je n'étais pas moins chrétienne
oui.
à la fin de cette expérience.
Oui. Sylvie, donc c'est un bel événement que vous avez vécu toutes les trois et que vous nous avez fait vivre, ainsi qu'à plusieurs téléspectateurs, j'en suis certaine, il y a un an. Radio-Canada vous a sollicité à nouveau toutes les trois pour produire une capsule donc qui passe encore le jour du Seigneur, le dimanche 11 septembre, et donc qui a été diffusée là, il y a trois jours. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette rencontre à trois que vous avez faite à nouveau un an après et que vous peut-être vous nous disiez brièvement ce que chacune de vous trois portait comme réflexion face à cet anniversaire malheureux.
Ce rendez-vous, ça a été d'abord des retrouvailles. Il y avait plusieurs mois que nous ne nous étions pas vus et de se retrouver toutes les trois ensemble, c'était déjà une immense joie. Radio-Canada nous avait demandé d'y aller avec beaucoup de spontanéité. On ne nous demandait pas d'être académique ou d'analyser, mais on nous a demandé tout simplement, comme trois amis qui se retrouvent 10 ans après le 11 septembre, où étiez-vous il y a 10 ans?
Oui.
Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cet événement-là? Quels sentiments vous ont habité? Ce que je retiens, c'est que, en humanité, que l'on soit juif, musulman ou chrétien, c'est l'humanité qui nous a le plus rejoints et concernés. Le monde n'a plus jamais été le même après le 11 septembre. Peu importe où nous avions les pieds toutes les trois, nous avons le même constat. Comment est-ce que les 10 années de 2000 à 2010 2011, 2012, les guerres. Toutes ces guerres qui, à travers la planète, hein, ont été si présentes durant toute cette décennie. C'est un constat. Mm-hmm. Le monde n'aura plus jamais été le même. On nous a demandé aussi comment est-ce qu'on se verrait dans 10 ans. Aucune d'entre nous n'a été capable d'affirmer vraiment avec assurance où serons-nous dans 10 ans. Mais peut-être... essayer de nommer qu'est-ce que nous faisons immédiatement dans 10 ans.
Oui.
Alors, j'entendais Sharon qui parlait beaucoup de tout ce cheminement intérieur, spirituel, d'ouverture à l'autre, qui permet aussi une conversion réelle pour être capable d'accueillir l'autre dans sa différence et non pas de projeter sur l'autre nos propres limites, nos propres fragilités, qui fait que ce dialogue avec l'autre, il est coupé d'entrée de jeu parce que j'impose à l'autre ce que je suis.
C'est ça, c'est le dialogue ou c'est la violence.
Effectivement. Et Sharon, elle est engagée dans ce dialogue entre Israéliens et Palestiniens à développer cette écoute compassionnelle. C'est la compassion, effectivement, et elle travaille à cela. Il en va de même aussi pour Samia, qui est engagée dans cette action aussi de dialogue entre Juifs aussi et musulmans. Et comment est-ce qu'elle aussi, c'est cette importance d'ouverture à l'autre et à soi aussi pour être capable de, même à travers des gestes extrêmement simples, de pouvoir croire qu'on peut faire avancer les choses.
Mm-hmm. Et croire, comme elle disait, qu'on peut voir Dieu dans chaque personne dans et dans chaque être humain.
Effectivement. Ouais. Alors, c'est un chemin, ça aussi, d'humanisation.
Mm-hmm. Et par rapport à ces événements malheureux d'il y a 10 ans, la réflexion était à l'espoir?
Oui, tout à fait, à l'espoir. Ouais. Et moi-même, voyez-vous, je suis incapable de me projeter dans 10 ans. Mais ce que je suis capable de saisir, c'est qu'est-ce qui se passe avec les petits-enfants? La génération qui est là à l'heure actuelle, de ces petits qui sont de ce monde, qu'est-ce qu'on va donner comme éducation pour les aider à s'ouvrir justement à cette diversité culturelle religieuse en ayant les deux pieds enracinés dans leur propre culture, dans leur propre tradition. Et c'est une responsabilité que nous pouvons dès maintenant, vous et moi, de voir qu'est-ce qu'on va donner aux prochaines générations. Mm-hmm. Et ça, c'est une action. Les trois, je peux terminer ainsi en disant, c'est dans une action concrète dès aujourd'hui que nous pouvons initier des petits changements, des gestes très humbles, mais qui fait en sorte que ce monde devienne meilleur.
Je pensais à vos petits-enfants en vous écoutant et c'est pour eux.
Exactement. C'est concret.
Tout à fait.
C'est tout à fait concret. J'irai pas, moi, dans une action...
Vous n'irez pas en Israël demain matin ou en Iran ou à Beyrouth?
Je souhaiterais, mais je pense que pour l'instant, je suis appelée ailleurs.
Voilà. Et donc, là où on a les pieds, comme vous dites, et particulièrement, je dirais à Montréal et dans d'autres régions où il y a effectivement le multireligieux est déjà là.
Est déjà là.
Et quelles attitudes, quels gestes,
quels rêves nous portons au niveau de cette humanité qui a tellement changé en 10 ans.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on veut laisser aussi à nos enfants?
Certainement la capacité encore de rêver et de partager les rêves de Martin Luther King. Sylvie, c'est un très beau témoignage. Ça me touche beaucoup. Ça rejoint plein de gens aussi, j'en suis certaine. C'est une très belle expérience que vous avez vécue. Et merci de l'avoir partagée avec nos auditeurs. Sylvie Latreille, un grand merci.
Merci, Francine.
Je remercie aussi Samia et Sharon. Et je vous fais maintenant entendre quelques extraits de leur témoignage sur cette expérience de dialogue interreligieux. Extrait tiré des entrevues qu'elles ont données à Radio-Canada dans le cadre de l'émission Le Jour du Seigneur, diffusée en septembre 2010. La première voix que vous entendrez sera celle de Samia, croyante musulmane, et la seconde, celle de Sharon, croyante juive, et je suis certaine que vous les reconnaîtrez lorsque leurs voix alterneront. La toute dernière, c'est Sylvie, à qui j'ai laissé ce dernier mot.
Je le dis souvent que le dialogue ne peut se réaliser qu'à travers un projet. Il faut être ensemble, impliqué dans quelque chose qui nous rejoint pour qu'on puisse à ce moment-là se connaître.
On assume nos traditions avec, je ne sais pas, cette liberté, cette franchise. On est consciente du fait que on est peut-être en train de de contribuer à une évolution des traditions avec cette ouverture à l'autre. C'est pas pour dire qu'on est en train d'abandonner quoi que ce soit du tout, mais que si on accepte de créer quelque chose ensemble, c'est-à-dire qu'on accepte la présence de l'autre dans l'intimité de notre spiritualité. Et ça, c'est quelque chose.
Une façon à nous d'être en communion ensemble, puisque nous avons la même foi, on a même Dieu. Donc, pourquoi ne pas concevoir quelque chose ensemble? Je pense que c'est une invitation de Dieu, concevoir quelque chose ensemble pour le vénérer. C'est un moment de nous réunir, tout simplement, et de nous unir. Et ce qui nous unit, c'est cette foi-là dans le témoignage de la présence de Dieu en nous et en l'autre.
De se connaître dans cette identité profonde, ça c'est une manière de cheminer ensemble. Vivre ensemble, ça prend une connaissance. Et on a toujours tendance à rester un peu avec les nôtres.
Nous sommes en plein dans la commémoration du rêve de Martin Luther King. Il disait « Je rêve d'une prière interreligieuse entre les trois monothéismes ». Une idée qui, pour moi, reflète exactement ce que un verset du Coran mentionne, c'est que cette diversité qui existe entre les humains, autant au niveau de la couleur de la peau que des cultures, que des religions, c'est une diversité qui est en fait un don du divin. Et cette diversité, elle est faite justement pour qu'il y ait, et j'aime bien le mot, qu'il y ait un entrecroisement, qu'on s'entrecroise pour mieux se connaître. Il y a beaucoup de notre âme dans cette préparation.
Vous savez, c'est à Dieu que nous nous adressons.
Je remercie chaleureusement Sylvie pour ce témoignage et aussi Samia et Sharon qui ont rendu cette expérience possible. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer la parution en janvier 2012 d'un livre qui publie les actes du colloque « Dialogue des cultures et traditions monothéistes ». Ce livre présente l'ensemble des conférences, des interventions, des panels, ainsi qu'un texte sur la liturgie dont nous avons parlé au cours de cette émission. Cet ouvrage est publié chez Novalis. Je vous rappelle le titre de ce livre sur le dialogue interreligieux. C'est « Dialogue des cultures et traditions monothéistes ».
C'est Francine Robert au microphone. Vous étiez à l'écoute de l'émission « Croire d'hier à demain », produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains. Je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À bientôt.